Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte d'un acteur majeur du tournant du XXe siècle. Un chaînon manquant de l'histoire de l'art, anarchiste, critique d'art, galeriste, c'est Félix Fénéon, un inconnu qui a fait l'histoire.
Au cœur de l'histoire.
En montrant qu'il existe d'autres manières d'agir et de penser, d'autres relations entre les êtres, d'autres rapports au monde, le musée du Quai Branly proclame qu'aucun peuple, aucune nation, aucune civilisation n'épuise ni ne résume le génie humain. Et c'est seulement dans leurs expressions toujours renouvelées que s'entrevoit l'universel qui nous rassemble.
En juin 2006, Jacques Chirac a inauguré le musée du Quai Branly. C'était un vibrant hommage à toutes les cultures du monde, aux arts africains et océaniens. Derrière cette reconnaissance se cachait une initiative prise au tout début du XXe siècle, quand un collectionneur, Félix Fénéon, a, le premier, posé la question de savoir si un jour, l'art africain pourrait rentrer dans les grands musées occidentaux. Et aujourd'hui, trois institutions lui donnent raison. Le musée du Quai Branly, le musée d'Orsay et le musée des arts modernes de la ville de New York. Le tout pour deux grandes expositions qui ont lieu l'une au Quai Branly et l'autre au musée de l'Orangerie. Mais au fait, qui était Félix Fénéon? Ce dandy, anarchiste, collectionneur? Qu'est-il devenu? Pourquoi est-il un chaînon manquant de l'histoire de l'art? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je vous emmène à la fin du 19e siècle. Notre histoire commence sur l'île de la Cité à Paris, le 6 août 1894. Nous sommes dans la cour d'assises. Devant ce bâtiment imposant, des fiacres se sont succédés pour déposer les journalistes et les badauds, venus en masse pour assister à un procès hors norme. Celui de 26 personnes accusées d'appartenir à une association de malfaiteurs, à une tendance anarchiste. Ce procès, surnommé le procès des 30, est très attendu. C'est l'apogée de la lutte contre l'anarchisme. On doit réduire ces conspirateurs contre le gouvernement. Car depuis quelques années, les attentats n'ont pas cessé de frapper le pays. Quelques semaines auparavant, le 21 mai, Émile Henry, un anarchiste français, a été guillotiné à 21 ans pour avoir commis plusieurs attentats, dont le dernier visait les clients d'un café Gare Saint-Lazare. Dans la salle d'audience, on a fait entrer les accusés. Parmi eux, il y a des hommes plus ou moins jeunes soupçonnés d'appartenir aux réseaux anarchistes, parfois simples bandits ou cambrioleurs, habillés de redingotes noires ou de vestons gris. Il y a aussi deux femmes, elles aussi vêtues de façon sombre. La cour a établi une sorte de hiérarchie. Au premier rang se situent les intellectuels. Au deuxième rang, les délinquants ordinaires. Et derrière, les femmes. Chaque rangée est soigneusement encadrée de gardes municipaux. Au second rang, un jeune homme de 28 ans est assis. Plutôt maigre, les cheveux bruns, la barbe taillée en pointe. Ce matin encore, il a les traits tirés. Cela fait plusieurs semaines qu'il est prisonnier à Mazas, une vieille prison proche de la place de la Bastille. Cet homme, qui a l'air pourtant calme et détaché, c'est Félix Fénéon. Il écoute les premiers interrogatoires, très tendus. Félix sait que ses adversaires vont tout faire pour le condamner à une longue peine. L'avocat général, Bulot, est la bête noire des anarchistes depuis qu'il a, en 1892, requis la peine de mort pour les manifestants du 1er mai à Clichy. Mais Félix Fénéon a confiance dans son avocat, un certain Edgar Demange, qui défendra quelques années plus tard le capitaine Dreyfus lors des procès de 1894 et 1899. Lorsque le nom de Félix Fénéon est prononcé, le silence devient plus pesant dans l'Assemblée. Car tout le monde est venu voir à quoi ressemble ce dangereux intellectuel d'inspiration anarchiste, connu pour être passionné d'art et doté d'une plume exceptionnelle. Son arrestation le 25 avril précédent avait passionné la presse parisienne. Après une fouille de son bureau au ministère de la Guerre où il était employé, les policiers avaient trouvé des fioles de mercure et des détonateurs. Voilà pourquoi le jeune homme se trouve ce matin-là sur le banc des accusés. Entendant son nom, Félix se lève lentement. Il a décidé de frapper fort, mais à sa façon. Pour répondre à la violence à laquelle lui et ses amis doivent faire face, il choisit l'impertinence. Sans cesse, il oscille entre le jeu de l'ingénu et celui du provocateur. L'échange qu'il mène avec le président du tribunal restera dans les annales. La première question du juge porte sur le réseau de connaissances de Félix Fénéon.
Êtes-vous un anarchiste, monsieur Fénéon ?
Je suis un bourguignon, né à Turin.
Vous étiez l'ami intime d'un autre anarchiste étranger, un certain Kampfmeyer ?
Oh, intime, ces mots sont trop forts. Du reste, Kampfmeyer ne parlant que l'allemand et moi le français, nos conversations ne pouvaient pas être bien dangereuses.
Cependant, votre concierge de la rue des Piques a déclaré qu'elle l'avait vu fréquemment chez vous.
Ce que je puis dire, pour ne pas employer de termes plus forts, c'est qu'elle s'est trompée. Et du reste, sa déposition n'était peut-être pas très bienveillante.
À l'instruction, vous avez refusé de donner des informations sur lui.
Je ne me souciais de rien dire qui pût le compromettre. J'agirais de même à votre égard, monsieur le président, si le cas se présentait.
À chaque réponse, Félix Fénéon ridiculise l'accusation avec un air moqueur et une assurance plutôt étonnante pour son jeune âge. On entend même des rires contenus dans la salle d'audience. Les journalistes prennent des notes et au fur et à mesure du procès, ils décrivent l'apparence du suspect. Ils évoquent son ton réservé mais sûr de lui, sa silhouette droite ancrée dans le sol et son visage en forme de lame de couteau. L'image de Félix Fénéon séduit de plus en plus le public. Finalement, le tribunal n'arrive pas à prouver sa culpabilité. Sur les 26 accusés, seuls 3 cambrioleurs sont condamnés. C'est un échec cuisant pour la justice et le gouvernement français, eux qui souhaitaient devenir les premiers à éradiquer l'anarchie. Leur plan n'a pas fonctionné. Félix Fénéon et ses amis vont pouvoir reprendre le cours de leur vie. Mais qui est ce Félix le Muet, comme l'appelaient les policiers, qui a eu une si grande assurance face au tribunal, face à la cour d'assises de la Seine? Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière, en Italie, sa terre natale. Félix Fénéon est né à Turin le 29 juin 1861. À cette époque, la ville était la capitale du Piémont. Depuis l'effervescence du Risorgimento dans les années 1840, la ville italienne est devenue un centre de résistance politique à l'occupation autrichienne. Son père, Jules Fénéon, était originaire de Bourgogne. Mais c'est à Turin qu'il a rencontré une jeune femme d'origine suisse, Marie-Louise Jacquin. C'est de leur union qu'est né le petit Félix. C'est à 10 ans, en mai 1871, que Félix a sa première émotion politique. Il apprend le massacre de 30 000 femmes et hommes pendant la semaine sanglante de la Commune. Pendant son enfance et son adolescence, il a un goût prononcé pour la lecture. C'est un élève brillant. Sa famille dépense ses maigres économies pour l'envoyer à l'école normale de Cluny. C'est ici, en Bourgogne, dans cette abbaye bénédictine, que Félix remporte plusieurs prix et concours régionaux, notamment en histoire et en géographie. Il va ensuite au lycée Lamartine, à Mâcon. C'est là qu'il va faire une première manifestation politique en rejetant le cléricalisme. En juillet 1879, avec la fanfare du lycée, il refuse de participer à une cérémonie religieuse. Le proviseur ne va pas accepter cette rébellion et va simplement supprimer la fanfare. Une fois son baccalauréat en poche, Félix part pour Paris. Il y côtoie d'anciens communards. En 1880, il doit effectuer son service militaire dans l'infanterie. Pendant cette parenthèse, il se résout à suivre toutes les contraintes imposées par la vie de caserne. Vers la fin de son service, le jeune homme devient rédacteur au bureau du recrutement du ministère de la Guerre, sur le boulevard Saint-Germain. Il est décrit comme un employé modèle et réputé pour son efficacité. Très vite, il se passionne pour la vie culturelle parisienne. En 1881-82 ont lieu les 6e et 7e expositions des impressionnistes. C'est là, à l'âge de 20 ans, que Félix se met à nourrir une passion pour la peinture. Dans le même temps, certains de ses collègues du ministère de la Guerre l'introduisent dans les milieux littéraires. Il rencontre Émile Zola, Paul Verlaine. Le jeune homme noue aussi des liens avec des poètes dont il connaît déjà les textes par cœur, comme Mallarmé. Félix est très apprécié de ces milieux littéraires. On le regarde comme un jeune dandy, épris d'art, comme un avant-gardiste. Il s'intéresse surtout aux nouvelles formes artistiques. Il se met à collaborer à plusieurs revues d'art, comme la Libre Revue ou la Revue Indépendante. Il y écrit ses premières critiques. C'est à cette période que Fénéon découvre l'œuvre de Georges Seurat. Seurat, un peintre qui a le même âge que lui. En 1884, à la buvette du Salon des artistes indépendants, Félix Fénéon a comme une révélation. Il a devant lui un tableau, intitulé « Une baignade ». Cela représente des hommes sur les berges d'un fleuve avec au loin les fumées émises par les usines d'Asnières. La technique picturale utilise de petites touches de couleurs, rondes ou carrées. Elles sont juxtaposées et ne composent pas des mélanges de pâtes colorées. Félix Fénéon éprouve alors comme une sorte de révélation. Pour lui, cette toile incarne deux traditions. Celle des impressionnistes par ses couleurs claires et éclatantes, mais aussi celle du classicisme par la pureté des lignes. À tous les niveaux, le tableau incarne à la fois la tradition et la modernité, pour ne pas dire la scientificité. Le critique d'art qui est devenu Félix y voit l'émergence d'un ordre nouveau, qui est, et il va lui donner son nom, le néo-impressionnisme. À partir de ce moment-là, il devient un défenseur de ce courant, souvent discrédité par la critique dominante qui préfère l'art académique. Lui, au contraire, célèbre les courants artistiques novateurs, qui rassemblent le pointillisme et le fauvisme, sous les pinceaux de grands peintres comme Georges Seurat, Signac, Pissarro, Matisse, Bonnard. Lors de l'exposition impressionniste de 1886, il admire la Grande Jatte, un autre tableau de Seurat, qui représente le Paris populaire avec ses guinguettes, le long de la Seine. Voilà comment Félix Fénéon perçoit le travail de la couleur dans le tableau, la Grande Jatte de Seurat.
Dans la Grande Jatte de Monsieur Seurat, on trouvera sur chacun des centimètres de sa superficie une tourbillonnante cohue de menues macules, tous les éléments constitutifs du ton. Cette pelouse dans l'ombre, des touches en majorité, donne la valeur locale de l'herbe. D'autres, orangés, se clairsèment, exprimant la peu sensible action solaire. D'autres, de pourpre, font intervenir la complémentaire du vert. Un bleu cyané accumule ses criblures vers la ligne de démarcation. Ces couleurs, isolées sur la toile, se recomposent sur la rétine. L'atmosphère est transparente et vibrante singulièrement. La surface semble vaciller.
Le voici chef de file du néo-impressionnisme. Il prend aussi part à la naissance du symbolisme dans la littérature. Pour ce passionné d'art, tout ce qui est neuf est beau. Il commence déjà à collectionner des toiles et des objets. On aura l'occasion d'y revenir. À côté de ses activités artistiques, l'homme reste fidèle à son engagement politique. D'ailleurs, une bonne partie des artistes avec lesquels il travaille sont eux aussi anarchistes. Il écrit pour Le Chat Noir, L'En Dehors ou Le Père Peinard, ces différentes revues qui sont supprimées ou menacées par les lois scélérates de 1894. Mais, à la suite du procès, il ne peut plus travailler pour le ministère de la Guerre. Il lui faut donc trouver un nouvel emploi. Et surtout, Félix décide de ne plus signer les textes de son vrai nom. Il a compris, il y a trop de risques à exprimer ses idées en République. Il va devenir celui qui silence, pour reprendre le surnom que lui donne l'écrivain français Alfred Jarry. En janvier 1895, il rencontre deux frères, deux hommes d'affaires, qui ont décidé de lancer la Revue Blanche, une publication dont il va devenir le rédacteur en chef. Dans cette revue, on trouve tous les noms les plus prestigieux. Toulouse-Lautrec, parmi les peintres, Mallarmé, parmi les écrivains, Blum, parmi les politiques et les juristes, Peggy, parmi les poètes. La revue prend position pour la liberté du capitaine Dreyfus. Mais surtout, elle reste un miracle de composition intellectuelle et de rassemblement des avant-gardes. N'est-ce pas Debussy qui tient la rubrique musicale ? De cette époque, à un tableau du peintre Valoton, nous montre Félix Fénéon à la rédaction de la Revue Blanche. Il est tard, il fait sombre dehors. L'homme est penché sur son bureau. À la lueur d'une faible lumière, il relit les textes que les rédacteurs lui ont donnés. Travailleur acharné, il finit tard, il commence tôt, mais il ne dédaigne pas les plaisirs et sort régulièrement en ville où il a de nombreuses aventures. On dit que Fénéon est un serial lover. Peut-être est-il tout simplement un hédoniste, comme l'est un de ses amis, une de ses fréquentations de l'époque, Oscar Wilde. Mais ce dandy n'est pas seulement un homme de plaisir. Il lui plaît aussi de voir la fragilité de la vie. il va trouver un exercice qui lui permet d'exercer non pas du cynisme, mais une forme de poésie réaliste. À partir de 1906, il est chroniqueur pour le journal Le Matin. Il reprend une rubrique intitulée « Les nouvelles en trois lignes ». Et il va en faire une sorte de lieu passionnant pour développer, avec un style très singulier, des faits divers. Écoutons-en quelques-uns pour que vous vous rendiez bien compte.
Jugeant sa fille, 19 ans, trop peu austère, l'horloger stéphanois Jalla l'a tué. Il est vrai qu'il lui reste 11 autres enfants.
Madame Fournier, Monsieur Voin, Monsieur Septeuil, De Sucy, Triple Val, Septeuil se sont pendus. Neurasthénie, cancer, chômage.
Chez un cabaretier de Versailles, l'ex-ecclésiastique Rouleau trouva dans sa 11e absinthe la crise de délirium qui l'emporta.
Poupon, Gaudin, Giffray, Ordronneau, Granic nie avoir tué Madame Louet. Le juge de Rambouillet les arrête tout de même.
Fénéon est sans doute influencé aussi par l'art des poèmes orientaux, les haïkus. Car il ne faut pas l'oublier, c'est l'époque de l'orientalisme. Et nombre de ses amis, comme Villard, un des peintres nabis, sont influencés par le Japon. Ses nouvelles en trois lignes vont lui donner progressivement une réputation, mais une réputation littéraire presque secrète, puisqu'aucune n'est signée. C'est Jean Paulhan qui, plus tard, lui demandera de les réunir pour pouvoir en faire un volume chez Gallimard. Mais n'anticipons pas. Revenons en 1907. À ce moment-là, la carrière de Félix Fénéon va changer. Nous l'avons connu employé au ministère de la guerre. Nous l'avons vu rédacteur en chef de la Revue Blanche, journaliste. À partir de 1907, il devient galeriste. Il est le directeur artistique de la galerie parisienne Bernheim Jeune, dirigée par deux frères. L'un à la moustache abondante, l'autre à la calvitie précoce. C'est dans ce contexte qu'un de ses amis, le poète Guillaume Apollinaire, l'emmène un jour à Montmartre pour rencontrer un jeune peintre dont il aime particulièrement la technique. Les deux hommes se rendent sur le bateau Lavoir, où travaille dans son atelier un artiste. Ce jeune homme de 26 ans, aux cheveux longs avec une mèche qui lui couvre le front, n'est autre que Pablo Picasso. À cette époque, cela fait 3 ans que le peintre espagnol réside à Montmartre. Il vient d'ailleurs de terminer un tableau qu'il a appelé « Les Demoiselles d'Avignon ». Il y travaille jour et nuit. En regardant le tableau, Félix Fénéon se tourne vers Picasso et lui dit
« C'est intéressant, mon garçon. Vous devriez vous consacrer à la caricature. »
Très courtois, Picasso lui répond qu'il n'a peut-être pas tort. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le grand spécialiste d'art, l'amateur des avant-gardes qu'est Félix Fénéon, n'a pas compris les Demoiselles d'Avignon et n'a pas compris Pablo Picasso. Il n'a surtout pas compris l'influence de l'art africain sur ce tournant révolutionnaire artistique. Alors que pourtant, Fénéon s'intéresse aux arts venus d'ailleurs. Il s'est intéressé aux arts orientaux, au japonisme. Il commence à s'intéresser aux arts africains. Il ne comprend pas le tournant cubiste. Allez, soyons bons joueurs et précisons qu'une bonne partie de l'avant-garde de l'époque n'a pas compris ce tableau. Ni Matisse, ni Derain, ni même Braque. Tous ont ressenti un effroi en voyant ces prostituées peintes à la manière africaine par un maître espagnol. Pourtant, Fénéon avait déjà un intérêt pour les arts étrangers. Dans son activité politique, il s'intéresse d'ailleurs beaucoup à la question coloniale. Il est anticolonialiste parce qu'il considère que les peuples soumis à la colonisation ont leur propre culture qui risque d'être anéantie par les envahisseurs. Les premiers amateurs et collectionneurs d'ailleurs d'art africain sont proches de Félix Fénéon, des hommes comme Charles Vignier, le poète, ou Guillaume Apollinaire. Il restera toute sa vie anticolonialiste. Et d'ailleurs, il a participé à la grande exposition anticoloniale de 1931, organisée par André Thirion et Louis Aragon, intitulée tout simplement « La vérité sur les colonies ». À quel moment exactement Félix Fénéon a-t-il commencé sa collection? Peut-être dans les années 20, disent certains, plus sûrement au début du XXe siècle. Car déjà au lendemain de la Première Guerre mondiale, il est très féru d'art africain et des collectionneurs le consultent pour cela. À partir de décembre 1920, il va publier dans le Bulletin de la vie artistique, un journal qu'il défend et qu'il promeut, une enquête sur les arts lointains, dont le titre est « Seront-ils admis au Louvre ?». Il a interrogé plusieurs spécialistes et intellectuels pour qu'ils donnent leur avis sur cet art qui est en train de bouleverser la planète. Voici ce que Fénéon écrit en préambule pour présenter son enquête.
Sur l'art nègre d'Afrique, l'art indien des Amériques, l'art océanien, nous avons consulté 20 ethnographes ou explorateurs, artistes ou esthéticiens, collectionneurs ou marchands. Leur congrès aura fourni l'esquisse d'un ample programme de recherche, éveillé à ces choses de l'autre monde et fait miroiter l'eau autour des îles.
Fénéon a donc sa propre vision de l'art, qui navigue entre l'art occidental, presque scientifique, celui des pointillistes, et puis cet art, qu'il considère avant tout comme un élément géométrique, cet art africain qui est une autre vision du monde. Au fur et à mesure de sa carrière, il accumule tellement d'objets de toutes sortes qu'en 1923 déjà, le Musée des arts décoratifs de Paris fait appel à lui pour exposer 70 pièces de sa collection personnelle. Ils seront le clou d'une exposition sur les arts indigènes des colonies françaises et du Congo belge. C'est là notamment qu'il présente 31 poulies de métier à tisser, originaires pour la plupart de Côte d'Ivoire. Ces poulies sont de magnifiques sculptures. On suppose que déjà à l'époque, certaines avaient été fabriquées pour être vendues à l'étranger. Ce sont des objets qui attirent la curiosité de tous. Ils ont une si grande finesse que bientôt leur renommée est internationale. Dans les années 30, c'est le Muséum d'art moderne de New York qui lui demande de prêter des pièces pour son exposition African Negro Art. Ce qui fait d'ailleurs qu'il reste un des pionniers artistiques vus des États-Unis. Fénéon est maintenant déjà un homme âgé. En 1937, il a 76 ans et réside dans son appartement avenue de l'Opéra. Il est là, entouré par ses objets, ses livres, amassés durant toute une vie. Combien de tableaux possède-t-il? Sans doute plusieurs centaines, peut-être 700. Comment fait-il pour les stocker dans cet appartement? Certains sont empilés, d'autres entassés contre les murs et puis d'autres sont encadrés et visibles. Et il y a bien sûr, parmi tout cela, des objets d'art africain. Voici comment John Revald, un jeune historien d'art, qu'il a rencontré cette année-là, décrit son intérieur.
Les murs de l'entrée étaient tapissés de tableaux dont les cadres se touchaient presque. Une nature morte de Matisse, un Vuillard du début, des paysages de Bonnard et de Signac émergeaient de derrière un assortiment de sculptures africaines. Je me souviens d'un grand nu de Modigliani, allongé au-dessus du piano droit comme pour mieux écouter la musique, et des sculptures africaines accumulées sur le dessus de la cheminée et dans des vitrines.
Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, les conditions de vie deviennent très difficiles pour Félix Fénéon. Il doit se séparer d'une partie de sa collection en 1941 et il va s'installer dans la Vallée aux Loups, dans la maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry. C'est là qu'il va vivre quelques années, entouré de sa femme et aussi, il faut le dire, de sa maîtresse. C'est donc entouré des deux femmes de sa vie qu'il s'éteint le 24 février 1944. C'est 3 ans plus tard seulement, à l'hôtel Drouot, que sa collection va être définitivement dispersée. 457 pièces sont mises en vente. Des collectionneurs du monde entier sont venus pour l'occasion. Certaines œuvres se retrouveront en Californie. Étonnamment oublié, on mesure aujourd'hui à quel point Félix Fénéon a été important pour faire la bascule entre le classicisme du XIXe siècle et le modernisme du XXe siècle. C'est lui qui a soutenu les mouvements artistiques néo-impressionnistes, symbolistes, nabi, et qui a en même temps promu les nouvelles formes artistiques incarnées par les arts africains et océaniens. L'hommage que lui rendent aujourd'hui les grandes institutions internationales vient donc combler un vide. Et il était bon que nous puissions nous aussi connaître l'existence de ce personnage aux dons multiples et aux facettes impénétrables caché derrière ce petit sourire ironique que parfois il arborait pour mieux masquer son humanité et ses émotions profondes. Évidemment, cette émission n'aurait pas été possible sans l'exposition Félix Fénéon et les arts lointains au musée du Quai Branly et puis une exposition qui ouvrira ses portes en octobre au musée de l'Orangerie, Les Temps Nouveaux de Seurat à Matisse, Ces deux expositions ont été préparées par Isabelle Kahn, conservatrice générale des peintures au musée d'Orsay, et par Philippe Pelletier, conservateur au musée du Cameroun. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Présenté par Fabrice Dalméda.
Préparé par Adèle Salmon. Réalisé par Julien Tarot.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.